Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Étudier la Bible, pourquoi c'est important d'étudier la Bible? Puis je pense qu'une des grosses embûches, je pensais à ça pendant les louanges, pourquoi est-ce qu'on est peu attiré par l'étude de la Bible? Je pense qu'une des raisons, c'est que c'est comme un nouveau langage à apprendre complètement. Puis les solutions que j'ai besoin viennent de ce que ça fait des années que j'étudie puis que je comprends la parole. C'est pas comme « Google est ton ami », tu sais. Mes profs, ils disent ça quand vous avez besoin d'une réponse. « Google est ton ami ». Fait que Google, c'est un moteur de recherche où tu peux tout trouver là-dessus, pas mal, presque tout. Mais tu peux pas nécessairement trouver la pensée de Dieu comme ça. Puis la pensée de Dieu, c'est une manière de penser. C'est une manière de réfléchir. Puis c'est comme s'il fallait que tu apprennes plein de choses à propos de Dieu avant que ça devienne un moment donné concret puis applicable dans ton mariage, dans tes relations, dans ton travail, dans ta gestion de ta personne. Tu sais. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance d'étudier la parole pour collaborer avec ce que Dieu veut faire dans l'ère des mystères, dans l'ère du mystère. Et donc, on a un rôle à jouer. On va voir que la parole est souvent comparée à une semence par Jésus. Et puis, ça ne veut pas dire que parce que c'est une semence que je la reçois, que j'ai un rôle passif à jouer. Je vais avoir un rôle actif à jouer, c'est-à-dire qu'il va falloir que je me mette dans l'action aussi, puis je vois, mais il faut d'abord que je perçoive comment Dieu travaille. C'est pour ça que j'ai besoin d'étudier la parole. On va récapituler un petit peu pour le message de la semaine passée. C'est le message 2, ça s'appelle Parabole 2, et c'est Christ en nous. Je pense que, juste avant de parler de ce que je vais parler aujourd'hui, donc, qu'est-ce qu'on a vu la semaine passée? On a vu que Jésus parle du royaume dans les évangiles, puis quand il utilise le royaume des cieux ou le royaume de Dieu, c'est la même affaire. C'est juste que dans le livre de Matthieu, vous rappelez-vous pourquoi il dit des cieux et non de Dieu? Pourquoi déjà il dit royaume de Dieu et non royaume des cieux quand il l'a dit dans Matthieu? Vous en rappelez-vous? C'est que le nom de Dieu, on ne voulait pas le prononcer chez les Juifs. Puis comme le livre de Matthieu était écrit pour les Juifs, bien Matthieu, il ne veut pas heurter leur feeling. Fait qu'il ne va pas dire Dieu, il va dire le royaume des cieux. Mais lorsque vous lisez les évangiles, royaume des cieux, royaume de Dieu, c'est la même chose. Ce que je vais vous partager là, ce n'est pas cinq royaumes, c'est cinq aspects du royaume de Dieu que Dieu règne dans le monde. Premièrement, il y a son royaume éternel, son royaume spirituel, le royaume théocratique, le royaume du mystère, puis le millénium. On a vu dans mon dernier message que, dans le fond, le royaume éternel, c'est Dieu qui est au-dessus de tout, il est souverain. Souverain veut dire qu'il est avant tout, il est au-dessus de tout, il est à l'origine de tout aussi. Hein? Donc, il est le roi des rois, le roi de toute création. Puis, il y a le royaume spirituel. Le royaume spirituel, c'est depuis le premier homme jusqu'au dernier homme sur la terre, c'est quand que Dieu a de la place pour régner dans la vie d'une personne, sur son âme, puis que la personne, elle est sujette de Dieu. Elle se soumet à Dieu, puis Dieu a une partie de son cœur. Ça a lieu avant, dans l'Ancien Testament, ça va avoir lieu dans la période de l'Église, puis ça va avoir lieu aussi dans la Grande Tribulation, bien sûr, dans le millénium. Puis, il y a eu une période de temps dans l'histoire où Dieu se choisit un peuple, puis il règne sur ce peuple-là, par l'intermédiaire, soit de deux manières, soit par un prophète, un intermédiaire, comme par exemple Moïse, qui allait voir Dieu, Dieu disait « fais ceci », puis là, il allait le faire, ou par des rois, la période des monarques en Israël. Ça a eu lieu jusqu'à la déportation à Babylone. Puis un jour où ce que la Bible nous promet que Christ lui-même va venir, ça ne sera pas une théocratie dans un royaume théocratique, mais le règne du Messie, Jésus-Christ, qui va venir régner à Jérusalem. Puis entre les deux, il y a l'ère du mystère ou le royaume du ou des mystères. OK. Et cet air-là, c'est un air de découverte. Pourquoi étudier la Bible? Parce qu'on est dans un air de découverte et qu'il nous a été donné à nous de comprendre ce qui a été caché de tout temps avant. Donc, il y a quelque chose là vraiment à aller saisir là, dans cette période-là. Donc, Jésus, il dit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et cela ne leur a pas été donné aux autres. » Il parlait aux disciples. « Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. » Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes. Ce n'est pas des gens qui étaient incrédules, là. C'était des gens qui attendaient la venue du Messie. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Donc, on est dans un air de l'histoire de l'humanité où il y a quelque chose à comprendre qui n'a pas été dévoilé avant. Quand les gens regardaient ici dans l'Ancien Testament, les justes, puis les prophètes, ceux qui annonçaient la venue à venir, ils voyaient une montagne, c'était la venue du Messie pour régner dans le millénium. Ils voyaient un Messie s'en venir régner sur la terre. Hein? Il y a quelques prophéties qui annonçaient qu'il mourrait ou qu'il souffrirait, mais grosso modo, ce qui faisait un grand ombrage, c'était vraiment l'idée que Dieu viendrait régner sur la terre. Dans le livre de Daniel, c'est clair que c'est Dieu qui vient régner sur la terre. Puis, il s'est passé quelque chose lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre. Première venue, deuxième venue. Il s'est passé que il y a eu un rejet. Rejet, il est venu chez son propre peuple et le peuple ne l'a pas reçu, mais à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et là, il se passe quelque chose qu'on appelle une nouvelle ère qui n'existait pas dans l'Ancien Testament puisqu'il était dépendant, j'aime ça moi cette animation-là, il était dépendant de l'acceptation de Jésus-Christ comme le roi sur la nation, puis après ça sur le reste du monde. Et comme Israël l'a rejeté, Jésus-Christ s'est tourné de bord, puis il a dit, « OK, parfait, je continue quand même, mais je mets Israël de côté pour un temps. Puis je vais travailler, je vais me tourner vers les nations, puis je vais construire mon église, je vais bâtir mon église. » Et donc, heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Et ce que vous avez comme compréhension, c'est quelque chose que les prophètes de l'Ancien Testament ne pouvaient même pas concevoir. Et Jésus va dire à la fin du passage de Matthieu 13, au verset 52, il va dire, « Le royaume des cieux, parce qu'il est dans Matthieu, le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. » Il y a des choses qui viennent de l'Ancien Testament qui sont merveilleuses, des vérités qui sont merveilleuses, mais il y a des nouvelles affaires. Je pense qu'il y a un verset, je pense que c'est dans la seconde, il va dire comme un scribe qui a dans son trésor, et ça parle vraiment des paroles. Donc, un scribe qui a des choses anciennes dans son trésor, puis des choses nouvelles dans son trésor. Puis là, il est en train de dire que dans ces paraboles-là, qu'il a données tout au long du chapitre de Matthieu, c'est des nouvelles choses. C'est quelque chose de nouveau et heureux parce que vous comprenez. C'est pour ça que c'est l'ère du mystère. Est-ce que ça veut dire l'ère des choses compliquées et difficiles à comprendre? Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Caché. Ça veut dire que ça avait été caché à ceux qui étaient avant, puis ça a été maintenant, hein? Ça a maintenant été dévoilé. Exactement. Super. Donc, aujourd'hui, c'est certain que le titre du message, c'est « Christ en nous ». Un autre titre possible aurait été mettre l'emphase sur la parole. Dans l'ère du mystère, l'emphase est mise sur la parole. Et donc, on va aller à la première parabole, c'est la parabole du semeur. Donc, en arrière, vous voyez une main là, avec des grains. Le semeur, dans le fond, je la résume, puis après ça, on va lire l'explication de Jésus. Il y a quatre points dans la parabole du semeur. Premièrement, c'est un air où c'est le temps de semer. C'est le temps de semer la parole, la bonne nouvelle. Okay? Donc, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, puis du plan éternel qui a été réalisé par la venue de Jésus-Christ. C'est un des points qui est l'emphase, c'est que la préparation n'est pas la même dans une nation comme dans l'autre, puis dans une personne comme dans l'autre. Les gens ne reçoivent pas tous la bonne nouvelle dans un cœur préparé. Hein? Donc, la façon de recevoir est différente. Puis aussi, c'est un air où, quand la parole va être semée, elle va trouver des obstacles. Elle va trouver les oiseaux du ciel qui représentent les démons, Jésus va dire dans l'explication, qui essayent de venir enlever cette possibilité que la parole rentre dans nos cœurs puis qu'elle fasse un travail. Il y a les soucis de la vie, il y a le siècle présent, puis il y a ma propre disposition qui est la chair. Donc, il y a la chair, le monde et Satan. Donc, ça, c'est une période où c'est pas automatique que parce que la semence, qu'elle va porter fruit, puis elle va redonner à Dieu le fruit qu'elle était supposée de donner. Et puis, il y a le quatrième point, dans le fond, c'est qu'il y a quatre réponses différentes. Les gens répondent de quatre façons différentes. La première, c'est la semence qui a été mise sur le bord de la route. Fait que ce qu'on va faire, ben, je vais les donner, les quatre. Le sol peu profond, ou dans une version, il va dire un sol rocailleux. C'est une semence qui... Il y a les épines, puis il y a la bonne terre. C'est une terre préparée. Donc, on va regarder ensemble dans le verset 18 à 23 de la Louis II. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, donc c'est l'ère du royaume du mystère, donc les paroles de l'ère de l'Église, on peut dire, et de la grande tribulation. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur, et cet homme, c'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole, la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses, étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend les paroles et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Donc, la réponse sur le bord de la route, dans le fond, sur le bord de la route, c'est une réponse d'incrédulité. Dans notre ère, ça représenterait la personne qui a entendu l'Évangile, ne l'a pas compris et ne l'a pas reçu. Il l'a reçu comme en passant. La parole est passée dans sa vie, puis elle est repartie comme un passant, pas plus. Elle a choisi de ne pas la garder, elle ne l'a pas compris, elle est passée à côté d'elle et elle ne semble pas précieuse pour elle. Elle ne semble pas être quelque chose qu'on doive y accorder plus d'intérêt. Okay? Et donc, ça l'a peut-être diverti, mais sans rien de plus, on pourrait dire que c'est la personne qui n'a pas cru sur le bord de la route. Le sol peu profond ou le sol rocailleux, c'est une personne qui est un croyant, mais n'a pas été enracinée dans la parole. Elle n'a pas le désir de passer du lait, qui est la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le pardon des péchés. Ça, c'est l'ABC. Paul va dire, c'est pas Paul, c'est l'auteur des Hébreux, il va dire, ça, c'est du lait. Là. Il faudrait maintenant aller à plus, si vous voulez. Là, t'sais. Le péché, l'origine du monde, le péché, la solution... Le salut, la vie éternelle, les récompenses, ça c'est comme le lait de la vie chrétienne. Puis la viande est faite pour les hommes faits, des hommes ou des femmes qui se sont exercés à comprendre, qui se sont cassés de bessic un peu pour essayer de comprendre la parole. Donc, ils n'ont pas un désir de passer du lait à la viande. Et lorsque les fausses croyances, puisqu'ils ne se sont pas cassés de la tête pour examiner les choses, comme je disais, ça prend du travail, puis ce que tu vis aujourd'hui est peut-être le résultat de ce que tu vas avoir, tu t'es cassé la tête un petit peu avant pour être capable d'avoir du discernement quand va venir le test. Okay? Donc, ces gens-là ne sont pas cassés la tête, mais donc sont rapidement balayés par des fausses croyances, des faux oui-dire ou des choses comme ça, et sont égarés facilement et échouent d'avoir une compréhension de la parole. Ce sont des croyants, mais ce sont des croyants au lait. Les épines, ce sont ceux qui croient, mais ils ont de la difficulté à vaincre. Ils ont de la misère avec les tentations. Et ils connaissent la parole, mais ne réussissent pas à obtenir la victoire dans leur vie. Ils ne transfèrent pas ce qu'ils connaissent dans une application de dire « je vais mettre en pratique la parole de Dieu ». Comme Jésus, il a été tenté dans le désert quand il avait faim. Donc, dans les périodes de faiblesse, dans les périodes de vulnérabilité, Jésus dit « venez prier afin de ne pas tomber en tentation ». Appliquer la parole pour rester dans la victoire. Hein? Et donc, la foi, c'est comme un petit compartiment, un petit tiroir, puis là, il y a le reste de la vie de cette personne-là. Et donc, il y a un tiroir qui est peut-être les choses de Dieu, la connaissance de Dieu, mais il y a les autres qui sont le travail, la famille. Puis là, tu as toutes les sections de ta vie, mais c'est le monde qui a pris les autres compartiments. Puis la foi demeure quand que je lis ma Bible, quand je prie, puis quand je vais à l'Église. Mais elle n'a pas envahi les domaines de ma vie dans lesquels je vais prendre ce que je sais, puis je vais poser la question dans chacun des tiroirs de ma vie, est-ce que c'est vrai? Parce que depuis la chute, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une question qui vient, puis c'est Dieu qui la pose, c'est qui t'a dit cela? Qui t'a appris que c'est de même que ça marchait dans la vie? Qui t'a appris que ton identité venait de ce que tu faisais? Qui t'a appris que... Et là, Adam dit, ben, j'ai su que j'ai mangé de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. J'ai vu que j'étais nu. Hein? Et donc, une nouvelle source de connaissance. Et on a compartimenté. Puis, il y a celui-là qui s'appelle la foi. Puis, il y a le reste, c'est tous les autres domaines de ma vie. Et ce qu'on a besoin de faire, vraiment, c'est d'essayer d'appliquer la pensée de Dieu dans chacun des domaines de notre vie pour pouvoir vaincre. Donc, qu'est-ce qui arrive? Il y a des idoles qui viennent compétitionner pour notre attention. Ça peut être dans cette parabole-là, il dit que c'est l'invasion, dans certaines versions, c'est l'invasion des richesses, les soucis de ce siècle. Donc, les inquiétudes, mais aussi le désir d'être riche. Ou c'est quoi qu'il disait? Il parle j'avais noté ici plus d'argent, puis même aujourd'hui, puis là, je touche à une idole qui est la nôtre. Qui est très, très populaire, c'est la poursuite du bonheur. The pursuit of happiness, comme diraient les Américains, c'est ça qui domine le monde, c'est l'idole qui domine, c'est comment être heureux sur la terre. Tu sais. Mais sans la parole de Dieu, sans Dieu. Okay? Et donc, ça fait que c'est une personne qui, c'est dur de devenir un disciple parce que c'est pas le but de Dieu, c'est pas la poursuite du bonheur. Bien que Dieu ne nous destine pas au malheur si on le suit. Par contre, il veut façonner en nous le caractère de Jésus-Christ. On va en parler un peu plus tard. Puis, on va avoir de la misère si on a ces idoles-là de recherche du bonheur ou faire plus d'argent parce que, comme disait Ben, on va faire ce qu'on est bon à faire, on va faire ce qu'on est bon à faire, puis là, on va faire juste ça. Puis on va réaliser à la fin que peut-être qu'on a poursuivi des choses qui nous ont empêchés d'être le but pour lequel on est sur la terre. Parce qu'il y a en nous, il y a un code, j'étais un programmeur, il y a un code qui doit s'exécuter. Je vais en parler un peu plus tard. OK, puis finalement, il y a le bon sol qui est la bonne terre. Ce sont des croyants aussi, ils sont enracinés dans la parole. Ce sont des gens qui saisissent le combat spirituel, ils commencent à le saisir, ils commencent à voir le monde, la chair, ils savent quand c'est eux qui pensent aussi, ils savent qu'est-ce que Dieu a dit des choses, puis ils sont capables dans le combat spirituel de rester fermes après avoir tout surmonté. Hein? Et donc, ce sont des gens qui ont un cœur préparé pour la parole, puis la terre, elle garde le grain. Les oiseaux du ciel ne peuvent rien contre elle, les épines ne peuvent rien contre elle. Et puis, cette personne-là, c'est une personne qui a réussi à vaincre les trois ennemis. Puis, en plus, qu'est-ce qu'on voit? Elle est capable de se multiplier. Donc, non seulement, puis comme je disais mercredi à la réunion de prière, l'agriculture, puis élever des brebis, c'était les métiers. Hein? C'était les métiers du temps. Fait que, tu sais, c'était proche. C'était proche de notre travail. Hein? Fait que Jésus utilise dans les paraboles, des choses qui sont très proches de la vie quotidienne. Donc, quand tu faisais un plan, c'est sûr que tu ne disais pas, moi, je plante ces grains-là pour qu'ils se perdent, pour que ça ne produise pas. Non, chaque grain a comme une intention derrière ça. C'est comme, j'aimerais ça que ça produise, puis que non seulement ça produise, mais que je puisse obtenir mes prochaines semences à partir de ce plan-là. Et quand Jésus dit qu'il produit un, il en produit 30, l'autre 60, l'autre 100, c'est qu'il y a des plans qui vont redonner, peut-être pas dans la première génération, mais ils vont donner une semence qui va semer une autre. Et dans la semence, ce qui est merveilleux, c'est que dans une semence, il n'y a pas juste un petit grain insignifiant, il y a un arbre. Le voyez-vous? Dans le grain, il y a un arbre. Et dans le grain, il n'y a pas juste un arbre, il y a des fruits. Puis dans ce grain-là, il n'y a pas juste des arbres, un arbre puis des fruits. Il y a des semences pour d'autres arbres. Donc, dans cette semence, il y a une forêt de nombreux fruits. Le voyez-vous? La multiplication, c'est un air de multiplication. C'est un air où je vais croire, puis parce que je vais porter du fruit, il y a des gens qui vont croire à ce que j'ai cru, puis ils vont eux autres aussi porter du fruit. Et il y a d'autres personnes qui vont les voir, qui vont porter aussi du fruit. C'est un air de multiplication. Et c'est un air de la manière que Jésus-Christ veut répandre la bonne nouvelle, c'est au travers des gens qui portent du fruit. Donc, multiplication ne veut pas dire nécessairement une multiplication explicite, c'est-à-dire, OK, le vendredi, je donne un cours, puis là, ben celui que j'ai amené au Seigneur, je donne un cours. Ça peut être explicite, mais ça peut aussi être implicite. Faire des disciples peut être porter du fruit, puis impacter les autres, ça peut être de façon implicite. Ça veut juste dire que c'est pas direct. On peut dire que tu fais des disciples quand quelqu'un t'a vu persévérer, garder la foi. Tu sais, peut-être que vous êtes ici, puis vous persévérez avec Dieu parce que vous avez eu un grand-parent ou une mère que vous avez vu continuer à marcher dans la foi. Donc, porter du fruit puis faire des disciples, c'est pas juste de façon structurée, c'est aussi de devenir de plus en plus la personne que les autres veulent devenir. Dans 1 Thessaliciens 1:5, c'est écrit, « Vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. » Paul écrit aux Thessaliciens puis il leur dit, Vous m'avez imité, comme moi j'imite Christ, puis vous êtes des modèles, vous êtes devenus des modèles, mais ils n'ont pas commencé à les transmettre le modèle, ils ont juste une vie qui ressemble à ce qu'un disciple devrait être, puis les gens ils ont le goût d'être comme toi, parce que toi tu cherches à devenir comme Christ. Donc on a de l'impact sur les autres, on porte du fruit pour les autres, et ce qui donne un témoignage qui est puissant, c'est pas apprendre à faire ton témoignage en 5 étapes, bien que c'est important, mais ce qui précède fait ton témoignage en 5 étapes, c'est, Jésus dit ici que celui qui porte du fruit, c'est celui qui a reçu la parole, qui l'a reçu la parole dans une bonne terre, dans un cœur qui était préparé, puis les éléments de la saison ont fait leur travail, puis à un moment donné, t'as porté du fruit, puis c'est ce fruit-là. Tu sais, si tu vis comme le diable et que tu donnes super bien ton témoignage, tu vas te multiplier selon ta propre espèce. Donc, ce que Dieu veut faire, c'est nous transformer à l'image de son Fils, puis il veut, c'est sûr qu'on va développer des techniques pour témoigner, mais témoigner d'abord et avant tout une personne qui porte du fruit. Quel est le lien que tu entretiens avec la Bible pour être transformé, pour être changé? La Bible, elle doit être comprise puis mise en pratique. L'Église ici, dès que n'importe quelle Église, mais à chaque fois qu'il y a une Église qui veut être construite, il y a déjà l'annonce de sa destruction quand on est en train de fonder cette Église-là. Combien d'Églises qui ont été parties par notre Seigneur Jésus-Christ ou les apôtres subsistent encore aujourd'hui? Combien? C'est sûr qu'ils sont tous morts, mais je veux dire, est-ce qu'ils se sont succédés jusqu'à temps que hey, là, l'Église va aller, hey, ça a commencé dans le temps des apôtres, je veux dire, t'imagines un mouvement qui a 2000 ans, je veux dire, ça va juste grossir cette affaire-là. Mais elle a grossi cette Église-là, mais elle a grossi mais elle s'est transformée, puis il y a des gens qui sont partis, tout ça, OK? Mais déjà, dans les premières années, je veux dire, la persécution contre cette Église-là a été incroyable. Mais ce n'est pas juste la persécution qui a fait fermer les Églises. Tozer dit ceci. Il dit dans le livre « La connaissance de l'Éternel », « Une Église franchit le premier pas vers le déclin au moment où elle renonce à sa haute opinion sur Dieu », comme disait Gilles en introduction. Avant qu'une Église chrétienne s'enfonce dans l'oubli quelque part dans le monde, sa théologie fondamentale a dû se corrompre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les Églises disparaissent parce qu'elles perdent, nous perdons la connaissance de l'Éternel et l'étude de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui fait que l'Église Grâce et Vérité, elle va être là pour nos enfants, puis elle va être forte dans 15, dans 20 ans, puis qu'elle ne sera pas juste un oubli de dire « Il y avait eu une église à Davelouville. Il y avait cette église. » Qu'est-ce qui va faire? Ce ne sera pas les dons charismatiques qu'on va avoir, le nombre de personnes qui vont avoir été guéries, délivrées. Non, c'est un fruit qui demeure, c'est un fruit qui va avoir fait des petits. Il va y avoir une reproduction dans la parole de Dieu et l'enseignement. Donc, le déclin de ton témoignage et celui de l'Église s'enfonce. On s'enfonce dans l'oubli à quelque part dans le monde quand notre théologie, notre idée sur Dieu s'est corrompue. Donc, l'importance de l'étude de la parole. Donc, le souci dans la parabole de multiplication des semences, c'est pas est-ce qu'on témoigne assez. Si c'est ça, enlevez ça de votre tête, commencez par vous imbiber, continuez de vous imbiber de la parole, puis continuez à porter du fruit. Ça ne veut pas dire pour évangéliser, c'est pour ça que je dis, mais l'emphase, le souci devrait être d'abord et avant tout, est-ce que la parole travaille assez? Et oui, on n'est pas passif, il faut faire quelque chose. Mais ça nous mène à notre deuxième parabole. Cette parabole-là, c'est la parabole de la semence. L'autre, c'était la parabole du semeur. Et cette parabole-là se trouve dans Marc 4, 26 à 29. Donc, Marc 4, 26 à 29. Je vais vous laisser tourner. Il dit encore, il est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille. Nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi, et dès que son fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Marc 4, 26 à 29. C'est une parabole qui est seulement dans Marc. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est dans la nature de la semence de porter une information. Puis, dans cette semence-là, il y a la puissance d'un épi qui est dedans. Elle a une destinée, cette semence-là, c'est de ressembler à un épi, à un moment donné, d'avoir un plan, puis de produire un épi, mais de ressembler à quelque chose avant même qu'elle ait commencé à pousser. Et donc, le semeur, il a fait son travail. Maintenant, une fois que la semence est placée, la nature de la semence et la nature autour d'elle doit commencer à porter, à faire son travail. Puis là, il y a un projet qui est à mener à maturité, c'est d'amener cette semence-là à l'image qui est dedans. C'est comme de grossir ça, puis de laisser ce qui est supposé devenir. Et chacun d'entre nous, on est comme ça aussi. Donc, c'est quoi le projet? Le projet de la semence, c'est de reproduire l'image de l'arbre qui est en elle. Le projet de la semence, c'est de reproduire les arbres qu'il y a en elle. Le projet de la semence, c'est de reproduire la forêt qu'il y a en elle. Ça, c'est le projet qui est naturellement en elle. Et donc, le semeur peut être en train de jouer aux cartes, il peut être en train de dormir, il peut partir en vacances, il peut faire qu'est-ce qu'il veut. La semence a commencé son travail. Reste que lui, dans le fond, il n'a même pas besoin de comprendre comment ça se passe. Il sait qu'à un moment donné, il va avoir une récolte là, par rapport à ça. Donc, le semeur, il n'est pas là. OK, semence, brise ta coquille. OK, semence, là, je pense que tu aurais besoin de boire de l'eau là, tu sais, pour t'imbiber. Tu as besoin de, Peut-être que tu pourrais peut-être penser à un tuteur pour te supporter un peu. Je trouve que tu t'en vas un peu croche. Ça serait le temps que tu penses à peut-être apporter du fruit, là. Je te vois, là. Je veux dire, ça fait des années que tu es un grand, grand plant dans mon jardin, là. Maintenant, porte du fruit. Le semeur, il fait pas ça. Il s'en va. Je veux dire, lui, il attend au moment de la moisson. Puis, il sait pas trop comment ça se passe, mais il va venir puis il va récolter. Et ça, le semeur dit pas, à cette heure que tu portes du fruit, ce serait peut-être intéressant que tu penses à la relève, que tu penses à produire comme une relève. Pourquoi il ne fait pas ça, jardinier? Un, il aurait de l'air nono de faire ça. Deux, il n'en a pas besoin. Parce que c'est dans la nature du grain de former un projet pour lequel il est placé sur la terre. Et à la création, dans Genèse 1, verset 10, c'est écrit, « Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. » Non seulement la terre va produire des arbres fruitiers, mais ces arbres-là vont avoir en eux-mêmes la semence pour les arbres fruitiers selon leur espèce. Et des arbres donnant du fruit, ayant en eux leur semence selon leur espèce, et Dieu vit que cela était bon. Et ça, c'est le miracle de la vie. Le miracle de la vie, c'est de devenir ce qu'on est, en fait. Éric Liddell a dit, « Dieu m'a fait rapide. » Éric Liddell, qui était il y a un film qui s'appelle « Les chariots de feu ». Ce gars-là, il disait, « Dieu m'a créé pour courir et je sens le plaisir de Dieu quand je cours. » Il était un athlète olympique. Mais c'est intéressant. Et là, je ne sais pas pourquoi vous êtes sur la terre, mais dites pas parce que je ne suis pas vite. Dites pas ça. C'est pas par rapport à lui qu'on se définit. C'est par rapport à l'image. Que c'est quoi notre image? Lui, il sentait le plaisir de Dieu quand il courait, puis il a témoigné de Dieu au travers son don. Hein? Mais vous, comment Dieu vous a fait? C'est quoi votre image? Parce que la Bible dit Dieu nous a créé image de Dieu. Et donc, on a été placé aussi dans le monde pour être l'image qu'on porte en nous. Intéressant. Donc, si les araignées ont une place dans le monde, puis ont un but, c'est de nourrir d'autres insectes, puis etc., il y a tout un système en arrière de ça, bien, vous autres aussi. Vous avez un but, vous avez des fonctions sur la terre, et donc, il y a quelque chose qui est quand même nouveau. Ici, qui n'existait pas dans les autres royaumes, dans les autres aspects du royaume. C'est un principe inspiré de la biologie et c'est approprié seulement aux croyants de l'ère du mystère. Et on le lit dans Colossiens 1, au verset 27. Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Voyez-vous encore ici le mot « mysterion » qui veut dire quelque chose qui était caché avant, mais qui est maintenant révélé. À savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Non seulement vous avez une image, mais vous avez la puissance de cette image-là, Christ qui habite en vous, qui est l'espérance de la gloire. Bon, j'ai trouvé qu'il y avait un logo qui représentait bien ça. Vous savez, sur les ordinateurs, vous avez un logo comme ça, c'est marqué « Intel Inside ». Ça veut dire qu'il y a un chip Intel. Puis ce chip-là, ça se trouve à être comme le processeur. C'est ce qui fait exécuter tout. Tu peux avoir l'image de toutes tes données, toutes tes photos de famille sont là-dessus. Ça, c'est le disque dur. Mais enlève le processeur, l'image sert de rien. Bien, à la chute, il s'est passé qu'on a perdu le processeur. La machine, elle ne boot pas. On pourrait dire qu'il y a des systèmes. Tous les ordinateurs, à ce que je sache, ils ont un processeur Intel inside. Hein? Mais il y en a qui le gèrent un petit peu mieux que les autres. Mais à la chute, c'est comme si on avait un disque dur avec toute l'information qui vient d'avant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On avait ça, cette information-là, mais on n'était plus capable d'utiliser cette information-là pour exécuter ou pour vivre de cette information-là. Okay? Et donc, on n'a plus la puissance de l'image. On a l'image, mais on n'a plus la puissance pour exécuter cette image-là. Est-ce que vous voyez un petit peu? Je le répète plusieurs fois, mais je trouve que c'est hot comme image. Puis la chute, on pourrait dire qu'elle est bien exprimée des fois sur un ordinateur. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça sur votre ordi. Ils appellent ça en anglais « the blue screen of death », c'est l'écran bleu de la mort. Votre PC a rencontré un problème qu'il ne peut pas gérer et c'est le temps de redémarrer. Okay? Donc, qu'est-ce que tu as le goût de faire quand que tu vois cet écran-là, prochaine acétate? Tu as le goût de t'arracher les cheveux. Et là, tu as besoin, et peut-être vous avez déjà vu cet écran aussi qui dit « une mise à jour est nécessaire, n'éteignez pas votre ordinateur, 1%, 2%, puis là, ça continue, c'est long. » OK. Mais c'est quand même une belle image pour nous expliquer qu'on a en nous, même si on n'a pas accepté Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, l'image de Dieu, on a toujours cette semence-là qui veut s'épandre, grossir et porter du fruit dans le monde. On a ça, cette image-là, elle est là toujours, mais on n'a pas la puissance de vivre de cette image-là. Et donc, maintenant, dans l'ère du mystère, c'est la seule ère dans toute l'histoire du monde, même au ciel, on est les seuls que dans les anges, Dieu n'habite pas, dans Israël, Dieu n'habite pas, dans les croyants de la grande tribulation, Dieu n'habite pas, il habite dans les croyants de l'ère de l'Église. Ça vaut la peine d'être répété. Parce que vous êtes le temple très saint de Dieu par Jésus-Christ au moyen du Saint-Esprit. Et ça, ça a l'air à être compris. Et dans 2 Pierre 1, 4, c'est écrit que par la parole de Dieu, je deviens participant à la nature divine. Ça, c'est comme les prophètes, c'est un mystère caché de tout temps. Hein? C'est Colossiens qui disait qu'on a compris le mystère, Christ en nous, l'espoir de la gloire. Ça c'est comme un privilège extraordinaire que tu as, que j'ai, d'être le lieu très saint. Quand c'est écrit que nous sommes le temple du Seigneur dans le livre de Corinthiens, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Seigneur? Le mot temple, c'est naos, et le naos, ça se trouve être le mot utilisé pour le lieu très saint quand Dieu apparaissait, puis il n'y a aucun homme qui pouvait rentrer dans cet endroit-là. C'est extraordinaire. Et donc, il y a un changement parce que la puissance de l'image est entrée en moi par la résurrection de mon Seigneur Jésus-Christ. J'ai la vie même qui a ressuscité Christ qui agit en moi pour rendre possible l'image, pour repartir l'ordinateur, pour accéder à cette image-là et pour que je puisse devenir ce que je suis appelé à être. Dieu s'est donné un projet quand il a vu ta semence. Je reviens à la semence, à l'agriculture. Mais tu sais, si Dieu se récite, c'est sûr qu'il parlerait des Mac et des PC. Non, il parlerait de quelque chose qui est proche de nous pareil. Là. C'est une blague en passant. Mais Dieu peut maintenant, avec toi et avec moi, parce qu'on a cru en son Fils Jésus-Christ, on a reçu en nous, Christ, l'espoir de la gloire. Puis c'est possible de prendre ce petit grain-là, le faire pousser, puis amener à maturité qu'est-ce qui pourrait rester immature, par contre. Et c'est là qu'on a une part active à jouer, parce que là, c'est nous autres qui participent avec Dieu pour qu'il puisse faire le projet qui s'était donné en nous. C'est de venir vivre en nous, pour qu'on vive de toute parole, pour que cette image qui est dans la semence, dans mon cœur, Christ puisse le faire croître. Dans Romains, il dit que la loi était sans force parce que la loi dit « fais ceci ». Mais tu dis quelque chose au grain, il ne fera rien de grain par rapport à ce que tu lui dis. Et la loi avait été donnée, mais la chair la rendait sans force. Mais il y a une loi, la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ, est venue agir pour que s'accomplisse en nous la justice de Dieu. Et c'est ça que Romains 8, il veut faire. Il parle du Saint-Esprit tout le temps dans ce verset-là. Pour nous montrer qu'il y a quelque chose qui s'est passé, chrétien de l'Église. Il y a une loi de vie, il y a une loi de mort qui était sans Christ. Je n'étais pas capable de faire quelque chose avec cette image-là. En Christ, j'ai une loi d'esprit de vie qui agit. Et donc, c'est pour ça qu'un chrétien qui est dirigé par le Saint-Esprit n'a pas besoin de se faire dire toujours « Fais ceci, fais cela, fais pas ceci, fais pas cela. » Pourquoi? Il y a en elle ce désir de grandir et cette soif de la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin de me dire de boire, j'ai la gorge sec, j'ai soif. Je cherche les choses de Dieu. Il y a en moi, Paul va dire, il y a deux lois qui agissent en moi. Il y a cette loi du péché et de la mort. Hein? Qui fait que des choses que je ne veux pas puis des choses que je voudrais faire, je ne les fais pas. Mais il y a aussi cette loi qui m'a affranchi de la loi de la mort. Et cette loi-là, c'est la loi de l'esprit de vie. Et je reconnais que cette loi agit aussi en dedans de moi. Pourquoi? Parce que j'ai soif de la Bible, j'ai soif de la parole de Dieu. OK. Donc, j'arrive vers la conclusion de mon message. Si c'est donc biologique, on n'a pas besoin, ben, dans l'air de l'Église, de dire « Faites pas ci, faites pas ça, faites ceci, faites ceci. » On a juste besoin d'enseigner la parole abondamment, enseigner, puis c'est la vie de Dieu, puis l'image qui est en nous, qui va chercher à sortir. Tu n'as pas besoin de te poser la question « Comment ça va se passer? » Le jardinier a fait sa job, après ça, ça continue. Donc, l'air de l'Église, c'est un air. Donc, juste pour clôturer avec ce que j'ai dit au début, en introduction, c'est un air où la parole est semée abondamment. Puis la parabole des semences, ce n'est pas pour dire ceux qui sont sauvés que ceux qui ne sont pas sauvés. C'est surtout pour dire, dans une personne, la parole n'a eu pas d'effet du tout, elle n'est pas sauvée. Dans ceux qui ont été sauvés, il y en a qui ont des sérieux problèmes de maturité. Ils vont rester des chrétiens immatures toute leur vie. Ils ont l'image, mais l'ordi n'est jamais allumé. Ils ont l'image, mais l'ordi n'est jamais allumé. Et ça, c'est des chrétiens qui, soit ça, c'est du roc, soit c'est des épines, sont compartimentalisés dans leur tête, ils ont une place pour Dieu, mais tout le reste, c'est le monde. Alors que la bonne terre, le bon cœur, c'est une personne qui a laissé toute la parole venir envahir les domaines de sa vie. Et là, les versets comme Jean 15 font du sens. Jean 15 qui dit, « Je suis le cep en parlant d'un vignoble. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. » Celui qui demeure en moi, ça veut dire rester attaché au cep, et en qui je demeure, là, on parle là ici d'une sève. On parle encore une fois d'une unité organique. La sève du tronc, qui est Jésus-Christ, coule dans chacun de ses sarments. Et donc, puis dans ce passage-là, il va dire « demeurez dans ma parole, demeurez dans ma parole, demeurez dans ma parole », puis à un moment, il va dire « demeurez en moi ». Donc, on sait que ce que ça veut dire, c'est de demeurer dans la parole. Celui qui demeure en moi, dans la parole, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. En conclusion, j'aimerais ça vous parler d'une histoire qui s'est passée cette semaine. J'ai un programme à faire, c'est un programme en comptabilité. Il faut que je monte un système de comptabilité de zéro jusqu'au rapport, puis à la remise comptable, avec la division des taxes, puis tout le kit. C'est énorme. Tu sais comment c'est gros, ces programmes-là? Alors, Sarah, qui est trésorière, je lui demande, ça se réalise-tu à une session avec 4 personnes? C'est sûr, il faut qu'elle me dise non, parce que là, c'est comme... Hey, c'est 1600 heures, 2000 heures de travail au moins, puis on en a juste 400, tu sais. Fait que on a trouvé un programme qui est déjà tout fait, mais il faut se mettre les mains dedans, puis la seule façon de se mettre les mains dedans, c'est que ça prend un fichier de base qui détecte tout ce qui est dans le programme. Il y a 57 programmes qui roulent ensemble, puis qui les attachent ensemble. Mais ce fichier-là, il n'est pas fourni. Parce qu'il le donne gratuitement, mais tu achètes tous les plugins, qu'on appelle les choses qui se rajoutent sur le programme. Bon, vous n'êtes pas obligé d'apprendre l'informatique à matin pour me suivre. Fait que j'ai commencé probablement dans le coin de mardi à essayer de trouver une solution pour, ça s'appelle composer.json, c'est un fichier qui détecte, comme je vous dis, puis ils attachent tout ensemble, c'est la ceinture du programme, parce que il faut aller en ajouter, nous, on va en ajouter des micro-programmes, puis on va se mettre les mains dedans, puis on va le transformer, c'est ça notre projet. Comme ça, on ne sera pas obligé de tout commencer à partir de zéro, tu sais. Je te dis là, 20 heures au moins, 20 heures peut-être 30, là. Mais ma femme m'a dit que j'ai un don, c'est celui de l'exagération. Fait que je l'ai coupé de 10 heures. Pour réaliser, puis j'étais là, je peux pas. Puis là, je dis à chaque jour, tu sais, mercredi, je dis, Seigneur, fait que je finisse ça avant la réunion de prière. C'est comme là, on pourrait passer à d'autres choses, puis demain, je pourrais commencer. T'sais. Mais jeudi, j'ai dit la même affaire. Vendredi, la même affaire. Samedi, la même affaire. Jusqu'à, finalement, dans la journée d'hier, où j'ai acheté un autre, puis je l'ai laissé aller. Tu sais. Puis je dis, je vais aller lire, pareil, la documentation. Et il y avait 600 collaborateurs sur ce programme-là. Tout le monde travaille pour le mettre meilleur, puis il est gratuit. Fait que là, les gens embarquent. Tu sais. Ça se peut pas que les gens collaborent sur ce programme-là puis que le fameux composer.json ne soit pas là. Après avoir dépensé 50$ pour un programme qui ne fonctionnait pas, je lis pareil. Tu sais. Là, c'est écrit « Télécharger cette image ». Moi, je téléchargeais l'image qu'il donne quand les gens veulent l'installer sur leur serveur. C'est pas compliqué. Quand tu la prends, cette image-là, tu te dis « Boy, as-tu vu tous les programmes qu'il y a dedans? » Je vais le mettre sur mon serveur et je vais souhaiter que ça fonctionne. Puis là, ça marche. Parce qu'il est fait pour quelqu'un qui ne connaît pas la programmation, qui le met là, puis son programme de comptabilité part. Mais moi, c'est cette image-là que je prenais au lieu de prendre l'image de celle qui a le composer.json dedans. Puis là, j'ai trouvé par en arrière, dans un code pas mal plus complet, puis là, ça m'a pris 20 minutes. C'est quasiment une insulte, hein? C'est quasiment une insulte, hein? Mais ce que j'ai appris, par exemple, j'ai appris quelque chose sur la persévérance. J'ai appris la joie dans la victoire de ne pas avoir lâché avant. J'ai quand même appris ça. J'ai appris qu'on trouvait la paix quand on a persévéré assez pour trouver notre solution. Puis j'ai la paix, j'avais la paix pour continuer mon message, faire mon message. Je l'avais étudié un petit peu à chaque jour cette semaine. Puis là, j'ai comme, OK, là, enfin, on va pouvoir faire quelque chose avec ce programme-là. Tu sais. J'avais abandonné, mais j'ai continué. J'ai appris aussi quelque chose sur la sagesse. Savez-vous que j'ai été obligé d'apprendre un nouveau langage, que si tu fais un espace de plus, le programme plante. Là, c'est vraiment relié à comment tu fais d'espace entre les mots. J'ai appris une nouvelle façon de programmer. J'ai été obligé d'apprendre une nouvelle langue. Je prenais des cours juste pour essayer de comprendre c'est quoi qui se passait en arrière. Fait que j'ai gagné un nouveau langage. J'ai appris en me cassant la tête. Puis je sais qu'un jour, je vais avoir besoin de ça, puis je vais le réutiliser. Là. Okay? Fait que je n'ai pas juste perdu, mais j'ai aussi réalisé que j'aurais pu sauver beaucoup de temps, comme cette personne. Comme ça, elle, dans le fond, c'est parce que son PC a lâché, hein, parce que le salaire du PC, c'est la mort. Mais dans votre vie, vous êtes peut-être comme ça aussi. Puis vous savez, on peut sauver beaucoup de temps, de fatigue. Hey, j'étais dans des cours, il y avait des films qui passaient, comme tu sais, les cours de la première semaine, c'est un peu plus relax, tu sais, fait qu'ils te font passer un film. Tu sais. Fait que moi, quand le film commençait, tu sais, je voyais que c'était pas un moment clé dans l'histoire. Je m'en ai sur l'ordi. Steph a dit à ma fille hier, elle a dit « Ah, ça va me faire de la compagnie. » Parce qu'elle ne m'a pas vu bien, bien cette semaine. Fait que j'aurais pu sauver du temps, de la fatigue, de la frustration. Et l'application aujourd'hui pour nous, c'est pourquoi étudier plus? Ben, parce qu'on a reçu une compréhension. Jésus dit, vous avez heureux vos yeux, heureux vos oreilles parce que vous comprenez ce que les gens ne comprenaient pas. Hein? Parce que vous avez reçu une compréhension, mais aussi parce que vous avez reçu Christ. Vous avez deux passages qui sont bien intéressants dans Tite 3.5 puis 1 Pierre 1.23. Tite 3.5, 1 Pierre 1.23, qui nous parle qu'on a été régénérés. Non seulement on a une compréhension, puis le Saint-Esprit nous éclaire pour qu'on comprenne sa parole, mais aussi on a en nous la puissance de cette compréhension-là. C'est Jésus-Christ lui-même. Et ça nous parle ici d'être régénérés, ramenés à la vie pour continuer à porter du fruit. Donc pourquoi étudier la parole? Bien, parce que même si Jésus est en vous puis en moi, vous pourrez rester les mêmes jusqu'à la fin de votre vie parce qu'il faut allumer le système. Puis il s'allume comment? En jouant une part active à s'exposer à la parole de Dieu. Puis ça, vous avez ça dans 2 Pierre 1.4 qui dit que la parole de Dieu mélangée à notre foi nous rend participants à la nature divine. Ce qui est intéressant, c'est que dans le passage du fermier, il dit « la terre produit d'elle-même ». Donc, la terre qui est notre cœur produit de lui-même. Ce n'est pas quelque chose de l'extérieur, c'est quelque chose qui est en nous. C'est de nous vers l'extérieur. Et donc, c'est de s'exposer puis recevoir la parole. Pourquoi donc j'ai fait ce message-là ce matin? Pour donner une grande place à la parole? qu'on puisse comprendre la pensée de Dieu puis participer à sa nature. Puis que l'image qui est en nous puisse se montrer dans le monde. Amen. On va prier ensemble. Seigneur, je veux te remercier pour cette faveur qu'on a de comprendre, Seigneur Dieu, le mystère caché de tous les temps. Que tu viendrais vivre dans des hommes et qu'ensemble on composerait le corps de Christ. Merci pour le privilège de vivre en nous. Merci pour le privilège qu'on a d'avoir la Bible en français. Seigneur, je te prie pour les croyants dans cette pièce, Seigneur Dieu, mes frères et sœurs, qui n'aient pas peur de se casser la tête maintenant pour apprendre le langage de Dieu pour que ce soit facile plus tard, pour que ce soit plus applicable plus tard. Je te prie, Seigneur, qu'on cherche des occasions de comprendre ta parole afin que ta nature qui est en nous puisse montrer l'image de Jésus-Christ au monde. Transforme-nous à l'image de Jésus de plus en plus comme tu t'es donné le projet de le faire. Merci pour ces hommes et ces femmes, ces jeunes hommes, jeunes filles, qui ont pris la décision de ne pas prendre le chemin le plus facile, les épines, mais le meilleur chemin, qui est d'être attentif à ce que tu veux leur dire. Bénis-les, Seigneur. Bénis cette session qui commence, Seigneur Dieu. Je te prie de nous encourager, Seigneur Dieu, par ton esprit que tu as placé en nous. Au nom de Jésus. Amen.
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio, vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.graceetverite.org.